Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Nous voulons ouvrir la parole de notre Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Nous commençons à lire au verset 8. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Voilà ce que nous lisons. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il reviendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Nous arrêtons là, et nous relisons simplement à la fin du verset 13. Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Nous pourrons développer, Dieu voulant, trois grands points à propos de cette réponse remarquable, exemplaire de la Sunamite. Déjà, ce qui ressort dans cette réponse, c'est-à-dire un état d'esprit de satisfaction. Ensuite, nous pourrons parler d'autres aspects, d'autres implications de cet état d'esprit de satisfaction. Et puis nous parlerons aussi des conséquences de cette attitude, des conséquences de cet état d'esprit. Donc en premier, qu'est-ce qui ressort avant tout de sa réponse? C'est un état d'esprit de satisfaction. Car en fait, que veut dire cette phrase « J'habite au milieu de mon peuple » ? Ça veut dire qu'elle est satisfaite du peuple dont elle fait partie. Ça veut dire qu'elle est satisfaite de faire partie de ce peuple, qu'elle est satisfaite du lieu où elle se trouve, qu'elle est satisfaite de sa position dans le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'elle est satisfaite de son mari, qu'elle est satisfaite de sa famille, qu'elle est satisfaite de ses voisins, de son entourage, qu'elle est satisfaite du Seigneur, de l'action du Seigneur pour elle dans cette situation où elle se trouve. Et non seulement cela, mais elle est satisfaite de sa situation matérielle, elle est satisfaite pour sa sécurité, puisque le prophète lui propose de s'adresser en sa faveur au roi ou au chef de l'armée, elle pourrait essayer d'améliorer ces deux derniers aspects, c'est-à-dire celui de sa sécurité matérielle ou de sa sécurité tout court, mais en déclinant cette offre de l'homme de Dieu, elle montre sa satisfaction. Elle a donc, c'est évident, un état d'esprit satisfait. Et pourtant, nous pouvons considérer que la vie de cette femme n'était pas sans problème, n'était pas sans souci, autant pour sa situation présente que pour son avenir. Nous voyons que son mari est vieux, donc ça veut dire qu'elle risque de se retrouver peut-être dans pas longtemps veuve et sans enfant, avec tous les inconvénients d'une telle situation à l'époque où la principale garantie de ne pas se retrouver indigent et abandonné dans son grand âge, eh bien, c'était d'avoir des enfants pour prendre soin de soi et pour défendre les intérêts familiaux. D'ailleurs, on le voit bien pour elle-même, puisque plus tard, même quand elle aura un fils, elle sera obligée de faire appel à la justice du roi pour récupérer sa maison et sa terre, parce qu'on ne voulait pas la lui rendre. Hein ? Donc on en reparlera un peu plus loin. Donc une deuxième chose, c'est qu'elle a cette frustration de ne pas avoir d'enfants. Elle pourrait s'en plaindre. Elle pourrait peut-être, comme certains, en vouloir à Dieu. Mais nous voyons qu'elle est tellement libre sur ce point-là qu'elle n'en a même pas parlé au prophète. Et c'est l'esprit observateur de Géasi qui va attirer l'attention donc sur l'homme de Dieu sur la question. Et là, nous voyons qu'elle est libre. Ça ne veut pas dire qu'elle est inconsciente. mais c'est parce qu'elle se décharge sur le Seigneur. En fait, c'est une question qui est sensible pour elle, même très sensible, et on le voit à sa vive réaction quand le prophète lui annonce la bénédiction d'une naissance pour l'année suivante. Lorsque, dans le verset 36, dans le verset 16, elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Mais elle sait si bien mettre en œuvre l'exhortation de la promesse « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Qu'elle a ce bon état d'esprit avec lequel Dieu peut construire. Dieu peut construire, ça c'est une question ça. Dieu peut construire, Dieu veut construire, mais avec qui et dans la vie de qui va-t-il pouvoir le faire ? Vous relevez plusieurs choses à ce sujet, plusieurs réflexions, sept par exemple, sept réflexions. Dieu peut construire déjà avec quelqu'un qui lui fait confiance, hein, puisque dans Hébreux 11, verset 2, il est marqué « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Car il faut que celui qui croit, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, la confiance en Dieu va nous faire chercher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour y obéir en sachant que c'est ça qui est le meilleur pour notre vie. Amen. Et ainsi, cette foi amène l'exaucement divin et la bénédiction d'en haut sur nos vies. Et puis, Dieu peut construire avec quoi, avec qui encore ? Dieu peut construire avec quelqu'un qui est reconnaissant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. L'habitude de remercier Dieu. La régularité dans l'action de grâce pour ses nombreuses et excellentes bontés envers nous, ça va nous amener dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que les remerciements vont amener dans notre cœur une foi plus grande, laquelle va pouvoir amener de nombreuses et supplémentaires bénédictions dans notre vie, qui vont amener à leur tour de nouveaux remerciements, voyez-vous. Et puis, c'est donc un cercle vertueux, comme on appelle cela. Et puis, Dieu peut construire avec quelqu'un qui cherche à regarder le bon côté des choses. Il a pu nous arriver à tous, à un moment ou à un autre, de voir le bon côté d'une chose. On a peut-être eu un coup dur, une difficulté, une épreuve, et puis au départ ça nous a ennuyés, mais après, à un moment, on a découvert qu'il en est ressorti un avantage auquel on n'avait pas pensé d'abord. Donc à ce moment-là, nous voyons le bon côté de la chose. Ça nous arrive. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous un jour ou l'autre. Mais ceux avec lesquels Dieu va pouvoir construire, c'est ceux qui vont chercher à regarder le bon côté des choses. Vous savez, il y a une différence entre voir et regarder. Hein ? Voir, c'est s'il n'y a pas d'acte de volonté de notre part. Regarder, il y a une intention de notre part. Quand on regarde quelque chose, eh bien, c'est qu'on a notre attention qui se fixe sur cela. On a une intention et une attention. Et ceux qui agissent ainsi, donc, ceux qui cherchent le bon côté des choses, eh bien, ceux-là vont mieux pouvoir discerner la direction de Dieu, la conduite divine, et ils vont pouvoir se laisser ainsi mieux conduire de la bonne façon. Ils vont pas seulement être ouvriers avec Dieu, mais ils vont devenir des ouvriers intelligents avec Dieu, voyez-vous. Hein ? C'est cela aussi. Et puis Dieu peut construire aussi en quatrième avec quelqu'un qui a l'esprit disponible. Dieu peut construire avec quelqu'un qui a l'esprit disponible. Ceux qui n'ont pas le temps de s'arrêter, ceux qui ne prennent pas de temps avec Dieu ne verront pas grand-chose de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et probablement ne pourront-ils pas faire grand-chose pour participer à l'œuvre de Dieu. La voix de Dieu qui s'adresse à nous, habituellement, ce n'est pas un grand coup de tonnerre. Hein. Habituellement, c'est un murmure doux et léger. Et pour entendre ce murmure, eh bien, il faut être attentif. Pour cela, il faut pouvoir prendre du temps à l'écart pour pouvoir comprendre. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute, ta servante, écoute. Et quelle nécessité, là encore, pour chacun de nous, de pouvoir nous mettre dans cette attitude pour que le Seigneur puisse envoyer son esprit, nous remplir et nous conduire. Amen. Et puis, Dieu peut construire aussi avec quelqu'un qui n'est pas égocentrique. C'est important. Pourquoi ? Parce que cette personne va voir le bien des autres. Hein ? Elle va chercher à comprendre les autres. Elle va chercher à se mettre à leur place, à voir les choses aussi de leur point de vue. Non pas forcément pour approuver tout, mais pour comprendre comment faire du bien, voyez-vous ? que ce bien puisse rejoindre la personne de la bonne manière. Et Dieu fera ainsi de ceux qui ont cette attitude un canal de bénédiction pour les autres. Et en étant un tel canal, eh bien, la bénédiction ne pourra pas manquer aussi d'être sur eux. Celui qui arrose sera lui-même arrosé, nous dit également l'Écriture. Amen. Et puis Dieu aussi peut construire avec quelqu'un de désintéressé, hein, puisqu'il va faire passer ses intérêts personnels après ceux de Christ, après ceux de son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir confiance que s'il s'occupe de l'œuvre de Dieu, des intérêts de l'œuvre de Dieu, le Seigneur s'occupera de ses propres intérêts. Hein ? Quelqu'un de désintéressé, ce n'est pas un inconscient, mais c'est quelqu'un qui a compris que lorsque Dieu s'occupe de nos intérêts, eh bien, ils en seront dans de bien meilleures mains que si c'était uniquement dans les nôtres. Hein ? Et c'est pour cela que l'apôtre dit encore que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Et puis, Dieu peut aussi construire, ce sera notre septième point à ce sujet, Dieu peut construire avec quelqu'un qui sait tirer le bon des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, nous dit l'apôtre. Et ça nous montre que l'épreuve, eh bien, c'est un moyen. Si nous savons véritablement y passer avec la confiance dans le Seigneur, eh bien, c'est un moyen par lequel le Seigneur pourra nous faire avancer, par lequel le Seigneur va pouvoir accomplir des choses d'autant plus précieuses et d'autant de bénédictions dans la vie de ceux qui se confient en lui. Et le Seigneur donc veut véritablement nous soutenir et nous fortifier en cela. Amen. Amen. Mais j'en reviens donc à notre Tsunamite, dont nous parlions de ses problèmes, de ses difficultés, de sa situation. Nous l'avons dit, son mari est vieux, donc ça veut dire qu'elle est nettement plus jeune que lui, et ça pouvait lui amener quelques regrets d'avoir peut-être gâché une partie de sa vie. Hein. Mais nous voyons que si elle a eu ce problème, elle l'a surmonté complètement, victorieusement, et nous le voyons intrinsèquement, donc dans sa répartie, « J'habite au milieu de mon peuple ». On a un parallèle dans l'Écriture, c'est dans le livre de Ruth, hein, au chapitre 3, verset 10, il nous est expliqué là aussi que Ruth, la Moabite, sur ce point précis, est félicitée par Boaz de ce qu'elle n'a pas cherché avant toute chose des jeunes gens, pauvres ou riches, pour se remarier. Hein, donc, et même si les chemins du mariage n'ont pas été les mêmes pour Ruth et pour la Tsunamite, nous les voyons qui se retrouvent dans cette situation comparable. Et toutes deux, elles ont surmonté la difficulté de manière à être bénies. Amen. Et puis une autre difficulté, c'est qu'elle n'a probablement pas toute la compréhension spirituelle à laquelle elle espérerait auprès de son mari. Hein, donc on le voit plus tard, lorsque l'enfant qui va naître sera mort à un moment, eh bien, et qu'elle, elle pense que le chemin de Dieu, c'est d'aller vers le prophète, elle n'en dit rien à son mari. Elle lui cache ce qui s'est passé, elle lui dissimule la vérité en lui faisant dire que tout va bien. Et ce n'est pas auprès de lui qu'elle va rechercher les ressources de foi dont elle a besoin dans ce moment-là. Non, elle ressent plutôt que son mari risquerait de lui mettre des bâtons dans les roues, de lui mettre des obstacles supplémentaires à un moment où il n'en a vraiment pas besoin. Hein, donc, et ça aussi, c'est une réelle difficulté. Mais ça ne l'empêche pas de garder sa paix, de garder sa joie et sa satisfaction quand elle répond, comme elle le fait, à la question du prophète. J'habite au milieu de mon peuple. Amen. Et puis, on sait aussi qu'à l'époque, la stabilité politique, économique, sociale était loin d'être extraordinaire. Hein. Il y avait des invasions de la part de toutes sortes d'adversaires dans le pays. Il y avait des famines. Chapitre 4, verset 38, il est question d'une famine. Chapitre 8, verset 1er, Élisée annonce même une famine de 7 ans. Hein. Donc, il y a des guerres. avec tout leur cortège de misère. Il y a des désordres, des injustices de toutes sortes, dont elle sera d'ailleurs victime, elle aussi, plus tard avec son fils. Il y a de quoi s'alarmer, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi tomber dans l'angoisse, dans la dépression pour certains. Il y a de réelles difficultés, mais dans toutes ces choses, elle est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Amen. Et malgré donc sa situation imparfaite, nous voyons qu'elle est dans une pleine paix, un plein repos, une pleine satisfaction. « J'habite au milieu de mon peuple », dit-elle. Amen. Amen. Puis maintenant, notre deuxième grand point nous parle d'autres aspects, d'autres implications de cet état d'esprit de satisfaction. Déjà, vous apercevez qu'il y a là un aspect... Alors, j'aimerais que les enfants ne parlent... Les enfants qui comprennent, je ne veux pas les entendre parler à voix haute. Merci. Donc, il y a un aspect d'enracinement, premier aspect d'enracinement, et ça ressort triplement quand il est marqué « j'habite au milieu de mon peuple ». Déjà, j'habite. J'habite, ça veut dire qu'elle demeure là, qu'elle n'a pas l'intention de déménager, elle n'a pas l'intention de changer. C'est son peuple, j'habite au milieu de mon peuple. C'est son peuple qui lui appartient, auquel elle appartient et auquel elle s'identifie consciemment et volontairement. J'habite au milieu de mon peuple, dit-elle. Donc, pas à la frontière, prête à se sauver à la moindre occasion. Vous voyez la différence, là encore, avec Naomi et les siens. C'est dans Ruth, au chapitre 1er, que ça nous est dit. Parce que là, dès qu'une famine arrive à Bethléem, à l'époque, elle se sauve au pays de Moab. Mais cette tsunamite est tellement enracinée là, tellement convaincue que sa place est là, que quand la famine de 7 ans va arriver, il faudra pas moins que la parole du prophète pour la convaincre de partir. C'est le prophète qui va lui dire, va-t'en, ne reste pas ici, la famine vient sur le pays pour 7 ans, parce que sinon, elle se serait plutôt laissée mourir là, quoique Dieu ne l'aurait pas permis, puisque c'est lui qui a choisi de la sauver ainsi que son fils. Donc Dieu aurait pu faire autrement, il aurait pu faire avec elle comme il a fait avec Élie au torrent de Kérit, ou comme l'huile et la farine de la veuve de Sarepta. Mais en tout cas, voilà une femme enracinée. Et il nous faut vraiment considérer la nécessité de l'enracinement, vous savez. Dans le psaume 1er, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. » C'est vrai. Voilà un passage qui vante l'enracinement. Cet arbre, il est là. Ses racines vont vers le courant, il est planté là. Et ceci pour un vrai bonheur. Il y a une béatitude là, ça commence par « heureux ». Heureux est l'homme qui agit ainsi. Et puis ensuite, il porte son fruit en sa saison. Parce que c'est pour qu'un arbre puisse porter son fruit en sa saison, que ce fruit puisse être vrai et durable, il nous faut être enraciné dans le Seigneur et enraciné là où le Seigneur nous a placés et là où il nous veut, sans nous laisser emporter à tout vent. Et puis il est marqué « dont le feuillage ne se flétrit point ». Et c'est l'enracinement vers ce courant de la communion avec Dieu, de l'attachement à la parole de Dieu, de la louange, de l'adoration, de cet amour des âmes, c'est ça qui va faire que notre feuillage va rester vert et que nous serons toujours renouvelés, toujours régénérés, quels que soient les temps et les circonstances. Amen. Et il est marqué, remarquez bien, tout ce qu'il fait, lui réussit. Dans ce verset 3. Quelle promesse, quelle assurance. Et c'est aussi ce que cette femme a vécu. Même au milieu des troubles et des difficultés de son temps, quand elle est arrivée au terme de son existence terrestre, elle pouvait dire qu'elle avait réussi en tout. Elle avait réussi dans son service pour Dieu, elle avait réussi dans sa vie de famille, elle avait réussi dans la transmission de son héritage, elle avait réussi dans tous les combats que le Seigneur lui avait donné de gagner. Et bien la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse en être ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Et nous voyons donc que cette position de satisfaction l'amène à s'enraciner. C'est notre premier effet de la chose. Ensuite, une deuxième chose qu'on peut voir, Deuxième conséquence de cette satisfaction, c'est une disposition de hauteur de vue et de désintéressement. Vous savez, à force de parler du salut en termes d'intérêt, eh bien, on risque peut-être d'être trop bassement intéressé, parce que si on se met à servir Dieu uniquement pour ce qu'il nous donne, et puis pour ce qu'il doit faire, ceci ou cela en nous, alors on risque de tomber sous l'accusation du diable, qui se trouve dans Job chapitre 1, verset 9, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Hein, voyez-vous ? Or, tout le livre de Job est là pour démontrer que, si bien sûr, nous préférons tous les bénédictions aux malédictions, il y a malgré tout une manière désintéressée de craindre Dieu et de le servir, et cette manière, c'est celle des vrais croyants. Hein ? Or donc, dans notre passage, je dis que cette Tsunamite est une femme de distinction. Hein, donc, c'est la seule femme de l'Ancien Testament qui soit appelée ainsi. C'est au verset 8, hein, 2 Rois chapitre 4, verset 8. Vous avez deux passages dans le Nouveau Testament, dans Actes 13 et 17, qui nous parlent aussi de femmes de distinction, mais ce n'est pas tout à fait le même sens. Alors, à quoi est-ce qu'on voit sa distinction ? À quoi est-ce qu'on la reconnaît ? Déjà, au tact et à l'élégance dont elle use envers l'homme de Dieu et envers son serviteur. Hein, déjà, première chose qu'on voit, la discrétion qu'elle a aussi. Hein, elle parle avec le prophète par intermédiaire. Lorsqu'il la fait venir, remarquez bien, elle vient jusqu'à la porte. Elle ne va pas plus loin, déjà cela. Ensuite, une deuxième chose, on voit ça aussi au fait qu'elle sert Dieu sans attendre de lui quelque chose de particulier pour ça. Elle fait les choses de façon désintéressée, et pour Dieu, et pour l'homme de Dieu, pareil, hein, pour l'homme de Dieu aussi, elle n'attend rien de particulier en retour. Elle est profondément heureuse, simplement, de pouvoir déjà rendre ce service, voyez-vous. Hein. Sa récompense est déjà dans ce bonheur qu'elle éprouve d'avoir fait le bien, d'avoir rendu service à Dieu et à l'homme de Dieu, et nous pouvons ainsi voir sa hauteur de vue, hein, et nous pouvons aussi voir son désintéressement, et c'est aussi en cela qu'elle est semblable au Seigneur, parce que fondamentalement, le Seigneur, bien sûr, aussi agit de manière désintéressée. Alors certains vont discuter, à perte de vue, sur le fait que Dieu attend de notre part une réponse à la manifestation de son amour, et que donc il est intéressé, et que si nous le servons, il nous bénira encore, et en conséquence, nous le glorifierons, ce qui nous amènera à encore être bénis. Il n'empêche que, au début de tout ce que nous ne voyons, nous, que très imparfaitement, comme un cycle d'intérêt, en fait, il y a quelque chose qui a été totalement désintéressé, qui a été accompli au départ. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Y avait-il une raison en nous pour qu'il nous aime ? Aucune. Hein ? Alors que nous étions encore sans force. Christ, autant marqué, est mort pour des quoi ? Des impies, c'est marqué. Des impies, ça c'était la réalité. Et donc cette position de service désintéressé est aussi en lien direct, je reviens à la Tsunamite là, sa position de service désintéressé est aussi directement en rapport avec son état d'esprit de satisfaction. Et puis une troisième chose qu'on voit chez elle, on voit aussi une disposition, je dirais, d'initiative venant de convictions justes, venant de convictions fortes. Cette femme, c'est une femme de conviction. Quelle est la première parole que nous l'entendons dire à son mari ? Au chapitre 4, au verset 9. « Voici, je sais, que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je le sais. » Et nous voyons que l'initiative vient immédiatement derrière. C'est la construction de cette chambre haute qui va donc être d'une grande utilité pour le service de Dieu. Et si cette femme avait été braquée sur ses soucis, sur ses besoins, sur ses inquiétudes, sur ses désirs ou sur ses convoitises, est-ce que vous croyez qu'elle aurait examiné l'homme pour voir s'il était de Dieu ? Est-ce que vous croyez qu'elle aurait seulement prêté attention à cet homme de Dieu qui passait ? Est-ce que vous croyez qu'elle aurait eu l'idée de construire cette chambre haute ? Ou qu'elle aurait eu l'initiative de lancer la chose ? Qu'elle aurait pris la chose à cœur ? Qu'elle aurait insisté auprès de son mari jusqu'à ce que ce soit fait ? À votre avis, combien de dizaines, combien de centaines de maisons le prophète et son serviteur voyaient-ils sur la route où une semblable chambre haute aurait pu être construite ? Et il n'y a eu que là que ça s'est fait. Il n'y a eu que là que ça s'est fait. Et en vérité, je vous le dis, entre ceux qui n'ont pas d'initiative pour le Seigneur et son œuvre, ceux qui ont des initiatives intempestives, ceux qui n'ont pas de conviction, ceux qui ont de mauvaises convictions, que de gens qui passent à côté des bénédictions qu'ils pourraient avoir s'ils avaient vraiment, réellement, le bon état d'esprit de satisfaction que cette femme avait. C'est ça une réalité, une grande réalité. Et nous voyons qu'elle va avoir d'autres convictions, qu'elle va avoir d'autres initiatives. Quand son fils meurt, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous voyez comment elle s'adresse à son mari ? Vous voyez comment elle va vers le prophète ? Elle prend l'initiative d'embrasser ses pieds. Elle ne se laisse pas repousser par Gehazi. Elle ne veut pas que ce soit... elle veut que ce soit Élisée qui vienne. Elle ne veut pas de Gehazi seulement. Donc vous voyez, c'est une femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle a des convictions. Et elle agit suivant ses convictions. Et heureusement qu'il en a été ainsi. Parce que c'est comme ça qu'elle a eu le miracle de la part du Seigneur. Il faut quand même le voir, comme le savoir. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce qu'elle a ces bonnes convictions, ces bonnes actions ? Encore une fois, parce qu'elle a le bon état d'esprit. Fondamentalement, c'est cela, hein, cet esprit de bonnes et justes convictions, accompagné de bonnes et justes initiatives. Dieu peut construire quelque chose de bon, de très bon peut se construire là-dessus. Amen. Amen. Et puis je dirais qu'une quatrième chose que je peux remarquer chez cette femme, c'est son esprit d'autonomie et de réelle liberté. On voit cela. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit très clair, ça n'a rien à voir avec cet esprit de rébellion, d'insoumission et de libertinisme qui est malheureusement pratiqué, prôné par beaucoup aujourd'hui. Je disais l'autre jour un petit article duquel je tire l'illustration suivante. Le très beau poster attirait les regards. Semblable à ces grandes photographies de paysages que l'on trouve maintenant dans les librairies chrétiennes, il présentait un lieu sauvage du sud des USA où l'on apercevait un cow-boy à cheval sur une avancée rocheuse. Le verset biblique choisi, ou plutôt la partie du verset choisi, s'inscrivait en gros caractères comme dans une annonce publicitaire. Il était question de la liberté à laquelle nous avons été appelés. Et c'est ainsi que, tiré du contexte biblique, une parole de l'Écriture devenait, sur fond de poster incitant au voyage, un slogan très à la mode dans cette période décadente de l'histoire. Certes, en son temps, l'apôtre Paul dénonçait déjà ceux qui falsifiaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, que dirait-il devant l'étendue des dégâts ? Nul doute que dans les églises, beaucoup quotidiennement exposés au conditionnement hédoniste dont la télévision assure la promotion, n'en auront pas remarqué le caractère pernicieux. Car le message biblique y est tronqué, déformé, utilisé à des fins opposées à celles que le Christ et les apôtres ont annoncées. Il aurait fallu écrire ce que la Bible dit. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre nature charnelle. » Voilà. Cette femme connaît la vraie liberté en Christ. Elle est libérée du péché qui rend esclave. Elle est libre de l'orgueil qui veut toujours avoir raison. Elle est libre du caractère qui regimbe contre l'autorité. Elle est libre de l'attachement aux choses de la terre. Elle est libre de la crainte qui trouble tant d'hommes et tant de femmes. Elle est libre par rapport aux soucis pour l'avenir. Et les voilà en même temps libre et soumise, autonome et coopérante. Et vous pouvez remarquer que les rapports avec son mari ne sont pas du tout des rapports de force. À l'époque, c'était souvent le cas, mais vous savez, aujourd'hui, malheureusement aussi, ce sont des rapports de confiance. On voit cela très clairement. Et vous avez dans cette tsunamite une illustration excellente de la femme vertueuse dont il est question dans le 31e chapitre du livre des Proverbes, que nous n'allons pas lire maintenant, mais il nous a dit à son sujet que le cœur de son mari a confiance en elle, parce qu'il a de bonnes raisons d'avoir confiance en elle. Il est parlé aussi dans ce chapitre 31, que je vous invite à lire ou à relire, de ses initiatives, de la liberté qu'elle a de prendre ces initiatives-là. Il nous est dit au verset 26 de ce chapitre qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Et il nous est dit au verset 28 que son mari lui donne des louanges. C'est ainsi que nous voyons qu'elle est réellement libre, qu'elle est autonome. Elle ne l'a pas arrachée à son mari, vous savez, au terme d'une guerre d'usure, dont certaines peuvent avoir le secret. Non, elle a gagné son mari par son attitude, par son comportement, et maintenant elle fait ce qu'elle veut. Son mari la laisse faire ce qu'elle veut, parce qu'il sait qu'elle est dans le bon état d'esprit. Il sait qu'elle fait les choses dans un bon état d'esprit et vraiment dans le Seigneur. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler que la base de cette liberté, de cette autonomie, c'est encore une fois cet esprit positif qui est exprimé ainsi : « J'habite au milieu de mon peuple. » Amen. Et puis, nous voici enfin au troisième chapitre. Dieu peut construire et Dieu peut bénir à partir d'une telle attitude, et ce sont les conséquences. Alors, quelles sont ces conséquences, justement ? La première qu'on peut voir, c'est qu'une relation durable va s'établir entre sa famille et le serviteur de Dieu. Donc, elle va participer de manière suivie, en soutenant Élisée, elle va participer à ce service. Elle va être une colonne, un pilier, un soutien de l'œuvre de Dieu par sa fidélité dans ce service. Elle va participer aux responsabilités et donc aussi aux privilèges, aux bénédictions. Dans Matthieu chapitre 10, verset 41, le Seigneur Jésus lui-même a dit « Car celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Alléluia. Donc elle aura, d'après ce que l'Écriture nous dit, la même sorte de récompense qu'Élisée a pu recevoir. C'est très clair. Et ainsi, voyons-nous, cet excellent travail d'édification qui va pouvoir se poursuivre pour elle ainsi que pour les siens. Ça, c'est une première conséquence avantageuse. Ensuite, une deuxième conséquence, elle va bien sûr bénéficier de cette naissance miraculeuse. La venue de ce fils, donc, et parce que, pourquoi ? Bien parce que l'homme de Dieu a pris à cœur sa situation et son besoin. Elle va être au bénéfice de la bénédiction particulière par l'homme de Dieu. Et je crois qu'il faut aussi considérer l'importance d'une telle bénédiction parce que c'est effectivement un grand effet pour le bénéficiaire aussi. Amen. Et puis je dirais qu'une troisième conséquence bénéfique qu'on peut voir, c'est que Dieu va disposer favorablement l'homme de Dieu en sa faveur. Il va le faire de façon durable. On le voit. Il a plus d'estime pour elle que pour son propre serviteur. Il l'approuve, elle, plutôt qu'il n'approuve Géasi. Il sent bien, le prophète, la différence d'état d'esprit qu'il y a entre les deux, qui est entre Géasi et elle. Donc. Et donc, il discerne la communion de foi qu'il y a entre lui et cette femme, et il va faire le déplacement et les efforts donc à sa demande. Et c'est cela aussi, en quatrième, qui va amener à ce glorieux miracle de résurrection de l'enfant. Nous allons quand même lire le passage, chapitre 4, verset 32. Chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 36. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ça veut dire qu'il a dû rester un moment comme ça. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Donc, voilà. On peut se poser la question. Si Élisée n'avait pas fait tous ses efforts, est-ce que vous croyez que le miracle se serait produit ? Ah non. Ah, mais certainement pas. Mais alors une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'Élisée a fait tous ses efforts ? Est-ce que vous croyez qu'Élisée aurait fait tous ses efforts pour n'importe qui ? Probablement non. S'il les a fait, c'est probablement parce qu'il connaissait la tsunamite, parce qu'il estimait donc comme cette femme que Dieu avait pu ainsi utiliser et bénir. Et donc c'est une femme dans la vie de laquelle Dieu avait pu construire. Et ça nous amène à une question évidemment, c'est une question qui peut se poser. Y a-t-il des gens pour lesquels, par exemple, les serviteurs de Dieu font plus d'efforts que pour d'autres ? C'est une question ça. Mais vous savez, même Dieu agit ainsi. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, par exemple, il est marqué « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alors, rappelons-nous que Dieu use de grâce envers tous les hommes, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est vrai, mais quand même, nous voyons que Dieu a des attentions spéciales pour certains, et il y a de bonnes raisons pour cela. Et je dirais que les serviteurs de Dieu fidèles, agissent de même, de manière particulière, envers ceux qui, ben justement, ont démontré, comme cette tsunamite, une fidélité persévérante, un attachement profond à Dieu et à son œuvre, même si, bien sûr, ils vont avoir à cœur de prier pour chacune et pour chacun. Hein, donc, prier avec foi pour chacun. Vous savez, lorsque Josué a vu Caleb s'avancer vers lui pour lui demander la part de territoire qui lui revenait dans le pays de Canaan, il a lui accordé, sans discuter, et avec une approbation particulière, et avec une bénédiction, une prière de bénédiction particulière, par rapport à d'autres chefs de tribu et d'autres chefs de clan qui sont venus pour des demandes comparables. Pourquoi ça? Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez vraiment des expériences communes de foi entre Josué et entre Caleb. Il y avait depuis tant d'années un esprit de lutte et de victoire qu'ils avaient en commun. Ils avaient une proximité dans leur façon de voir l'œuvre de Dieu. Ils avaient le même esprit de victoire. Ils avaient lutté au coude à coude pendant des années. Hein, si vous cherchez des exemples de compagnons d'œuvre et de combat, là vous les avez. Hein, Josué et Caleb. Donc vous pouvez comprendre que Josué a mis une plus grande prière de bénédiction sur Caleb que sur d'autres. Hein. Lorsque Élie s'est adressé à Élisée, peu de temps donc avant son enlèvement, il lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à aucun homme, à aucun des fils des prophètes, donc dans toutes les écoles des prophètes qu'il avait dirigées. Voilà ce qu'il lui a dit. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » C'est dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Et c'est comme ça qu'Élisée a eu la double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a eu deux fois plus le Saint-Esprit. La double portion, c'était la part de l'aîné. Vous savez, là, c'était cela, il faut connaître hein, dans le contexte, l'héritage des enfants était divisé de la façon suivante. Vous aviez la part de l'aîné, c'était la double part. Et puis après, vous aviez la part des autres qui était une part simple. Hein. Donc c'était cela que Élisée ne prétendait pas avoir deux fois plus de Saint-Esprit sur lui qu'Élie. Il n'avait pas cette outrecuidance-là. Hein. Donc, mais en tout cas, il l'a eu. En tout cas, il l'a eu et Dieu a approuvé cela. Et Dieu a béni cela. Pourquoi? Eh bien parce que il suffit de vous regarder un peu puis on voit la fidélité d'Élisée, sa ténacité, sa persévérance, son esprit de service. On peut saisir cela. L'apôtre Paul aussi pouvait dire, par exemple, « Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, ça veut dire quoi? Nous voyons, il avait le désir de sauver tous les hommes, tous ceux qui étaient possibles. Hein, il n'y a pas d'exception de ce point de vue-là. Mais, lorsque nous regardons, nous voyons quand même les efforts particuliers, les efforts spéciaux qu'il a faits en faveur de certains. Lorsqu'il est question d'Épaphrodite, bon, je ne vous lis pas ce passage, mais c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 25 à 30. Nous voyons combien il appelle à prier de manière spéciale pour Épaphrodite, à le soutenir. Et il explique pourquoi, hein, parce que cet homme, il a consacré sa vie donc, aux Philippiens, et puis enfin, il a fait beaucoup plus encore que cela. Quand il est question d'Onésiphore aussi, on est dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 18. Là encore, l'apôtre Paul explique la bénédiction particulière qu'il appelle sur Onésiphore. Et il explique les raisons. Et il montre la fidélité d'Onésiphore dans ces temps de persécution, de prison dans lesquels il se trouvait. Et il montre combien Onésiphore a manifesté là aussi véritablement un amour et une fidélité. Et puis, vis-à-vis de Timothée aussi, lorsque vous lisez les deux épîtres qui lui sont adressées, vous voyez aussi comme il s'occupe de lui, comme un bon père aimant s'occupe de son enfant. Mais il y a aussi, encore une fois, des raisons. Hein. Puis Tite aussi, on peut le voir dans son épître, et puis d'autres encore. Mais en tout cas, il y a des raisons pour lesquelles il a agi ainsi, et on peut les saisir, et on peut les comprendre. Amen. Et puis, que voyons-nous encore une autre conséquence bénie de cette attitude fondamentale, c'est qu'Élisée a dit à cette femme de partir pour échapper à la famine avec son fils. Et là, par contre, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 8, donc verset 1 jusqu'au verset 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. » Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. » Et là, on peut voir d'une façon frappante l'importance d'un état d'esprit bien disposé. Pourquoi ? Parce que cette femme, apparemment, a fait la même chose que Naomi, ce que Naomi avait fait dans le premier chapitre du livre de Ruth. Hein. Dans les deux cas, on voit que c'était des périodes de famine. Dans les deux cas, un séjour à l'étranger. Pour Naomi, elle est allée au pays de Moab. Pour la Tsunamite, elle est allée au pays des Philistins. Et dans les deux cas, c'était aussi le départ avec la famille. Et un observateur superficiel pourrait dire, mais c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Naomi a été châtiée, a eu une malédiction, et pourquoi est-ce que la Tsunamite a été bénie ? Apparemment, c'est la même chose. Eh bien, vous savez pourquoi ? Parce que Naomi fait ce qu'elle veut avec les siens, hein, je dirais, tandis que la Tsunamite, elle, ne cherche à faire que ce que Dieu veut. Naomi a un esprit rempli de négligence des choses de Dieu, d'insatisfaction de sa situation, donc de crainte. Elle ne pense qu'aux choses de la terre. Tandis que la Tsunamite a un esprit plein de satisfaction et de pleine confiance en Dieu. Hein, et c'est fondamentalement une différence d'état d'esprit. On revient toujours là. Vous savez, c'est l'état de notre cœur qui va faire la manière dont nous allons gérer notre vie. Hein, donc c'est cela. Hein, donc, et on devrait faire attention hein, quand on compare parfois superficiellement des situations, quand on se dit un tel a fait ceci, cela, etc. Ou, etc. Voilà. Donc l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Que Dieu nous donne de considérer notre cœur, de veiller sur lui. Amen. Et voyez aussi dans ce passage, le sixième avantage, la façon dont Dieu a agi pour qu'elle récupère tout. Hein, en revenant du pays des Philistins, elle ne trouve pas une situation facile. Hein. Il a fallu qu'elle lutte pour recouvrer son bien. Il a fallu qu'elle fasse comme la veuve importune, rappelez-vous, avec le juge unique, dont Jésus parle dans l'évangile de Luc au chapitre 18, au verset 1 à 8. Hein. Mais elle a lutté, elle ne s'est pas découragée, elle a combattu avec foi. Vous savez, Dieu ne lui a pas donné sans qu'elle fasse rien. Hein. On voit qu'il a fallu qu'elle lutte. Hein. Et le miracle s'est accompli pour elle, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le serviteur déchu du prophète est allié au roi, à ce roi qui est si souvent désobéissant. Et puis, les circonstances donc, de coïncidence extraordinaire du récit et de la rencontre, ça va produire une bonne disposition dont elle a profité. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous voyons cela là. Hein, et Dieu a agi miraculeusement au travers des circonstances. Tous ces miracles, toutes ces merveilles, à cause de quoi ? Au départ et tout au long. À cause de cette bonne disposition de cœur. Amen. Alors en conclusion, eh bien simplement trois versets de l'Écriture. Déjà, donc bien sûr, j'habite au milieu de mon peuple, c'est une excellente illustration de 1 Timothée 6, verset 6. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que la piété avec le contentement. Et nous voyons que cette femme a allié ces deux choses, piété et contentement. Donc, et quelle bénédiction merveilleuse, quelles expériences merveilleuses elle a pu faire. Grande source de gain. Ensuite, Proverbe 15, verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais un cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content est un festin perpétuel. Et voilà qui nous parle de l'importance et de l'impact de l'état d'esprit. Parce qu'au bout du compte, notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Facile ou non. Il ne dépend pas des épreuves et des difficultés, notre bonheur. Hein. Il ne dépend pas de ceux qui nous entourent, proches ou lointains. Il dépend de notre cœur, il dépend de notre état d'esprit, il dépend de nos désirs, de nos aspirations, hein, de ce que nous cherchons, de ce après quoi nous soupirons. Est-ce que nous servons le Seigneur avec amour, avec désintéressement ? Est-ce que nous pouvons prononcer cette parole « J'habite au milieu de mon peuple » De la même façon que cette tsunamite, sans convoitise, sans crainte, sans se charger de soucis, sans ambition terrestre. Hein. Philippiens chapitre 4, verset 11, là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui nous dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » J'ai appris. Ça nous montre qu'il faut qu'on apprenne. Hein. Ce n'est pas inné en nous, ça. Hein. Donc, même si lui a dû apprendre, à combien plus forte raison. Et l'apôtre, à ce moment-là, il était en prison, rappelez-vous. Hein. Ce n'était pas des circonstances faciles. Hein. Et c'est là qu'il dit encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Que Dieu nous donne d'apprendre. Que Dieu nous donne de grandir en ces choses. Hein, de manière à ce que la joie de l'Éternel soit notre force. Alléluia. Nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Ce sont des convictions. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Personne ne peut nous enlever cette joie-là. Béni soit le Seigneur. Amen, amen. Te remercions notre Dieu, c'est toi encore qui es bon et fidèle. Combien nous pouvons le dire et le répéter, et ce ne sera jamais assez de le dire et de le répéter. Combien c'est admirable et glorieux, combien tu es digne de bénédiction, combien tu es digne de reconnaissance, combien tu es digne d'action de grâce et de louange. Merci notre Dieu, béni sois-tu. Et merci parce que tu fortifies dans nos cœurs ces bonnes dispositions, Seigneur. Et merci parce que tu nous fortifies dans cette attitude, Seigneur, et tu interviens encore puissamment dans ton amour et dans ta bonté. Qu'il en soit ainsi par ton esprit, notre Dieu, sois glorifié. Amen, Jésus, alléluia. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors, plusieurs annonces déjà, que soient remerciés tous ceux qui ont soutenu la mission de Besançon, qui ont participé à cette mission qui a eu lieu cette semaine. Je rappelle que le mercredi, il y a ceux qui ont des questions bibliques, donc vous pouvez venir à 19h15. Alors, on est autour de la parole de Dieu pour cela. Et la réunion de prière se fait dans la foulée, donc à 20h15. Pas besoin de s'inscrire ou participer à la réunion de prière du mercredi. Pour l'instant, la prédication et le témoignage sont en ligne le vendredi sur le site de l'église à 20h15. Et je vous annonce dès à présent le camp de jeunes à Chalon qui doit se dérouler de 2 au 5 août. Inscription auprès de Jean-Baptiste et que soit remercié encore d'avance. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus.